Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
La culture du royaume dessus, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans la culture, on englobe, oui, le mariage, mais on englobe aussi beaucoup d'autres choses. Et pour parler de ça aujourd'hui, on va lire un passage. Ensemble, on va tous prendre nos Bibles, pour ceux qui en ont, dans le livre de Jean, au chapitre 17. Ce qu'on voit là, chapitre 17, à partir du verset 6. Ce sujet est extrêmement important et c'est particulièrement ce sujet qui cause des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. On y va. Jean 17, à partir du verset 6. Je lis. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Alors, pour nous situer dans le contexte, ici, c'est la prière que Jésus fait. Il est sur le point de partir à la croix et il fait cette prière, qui est une prière très importante que l'on appelle communément la prière sacerdotale. Et il nous dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi. » Et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je ne suis pas du monde? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je ne suis pas du monde? Vous avez vu que dans la lecture, j'ai insisté sur le mot « monde ». Le mot « monde » ici est un mot grec derrière que l'on prononce « cosmos », K-O-S-M-O-S, « cosmos », qui veut simplement dire le mode de pensée, un mode de pensée généralisé que l'on retrouve chez plusieurs personnes ou encore que l'on retrouve chez un peuple, « cosmos ». Et c'est un mode de pensée sans distinction de personne, c'est-à-dire que tout le monde pense de la même manière. Le mot « cosmos », traduit ici par le mot « monde », est aussi un mot que l'on peut traduire par la culture d'un peuple, la culture d'une nation, la culture d'un pays, d'une société, un système moral, spirituel et éthique d'une société ou d'un pays. Et vous avez vu que quand Jésus prie, il insiste sur le mot « cosmos » ou encore le mot « monde ». Lorsque vous voulez savoir de quoi parle un texte, pour ceux qui ont appris à faire ça à l'école, il suffit de regarder ce qu'on appelle les récurrences, les répétitions de mots. Et lorsqu'un mot est répété plusieurs fois, ça nous donne une indication du sujet du texte. Et si Jésus-Christ cite ici une dizaine de fois, « Ils ne sont pas du monde, je ne suis pas du monde, je ne te dis pas de les ôter du monde, le monde, le monde », c'est parce que tout simplement, il veut nous alerter sur quelque chose de très important. Il veut nous faire comprendre que nous sommes dans le monde, mais nous devons comprendre que nous n'appartenons pas à ce monde. Et le principal problème aujourd'hui que l'on rencontre au niveau des enfants de Dieu, c'est ce dilemme-là. C'est que les gens sont dans l'église, les gens ont donné leur vie à Jésus, les gens veulent connaître Jésus, mais ils n'arrivent pas à se détacher du monde. Qu'est-ce que le monde? Le monde, c'est le cosmos. c'est l'ethnos ou encore l'ethnie, le mode de pensée généralisé. Et dans ce mode de pensée généralisé, il y a tout un tas de choses que Dieu dit, tu dois t'en séparer. Parce que tout simplement, ce monde-là ne me reflète pas. Je vais y venir tout à l'heure. La culture du monde, on a dit cela la semaine dernière quand je l'ai abordé rapidement, est très différente de la culture du royaume des cieux. Est-ce qu'on peut dire avec moi le royaume des cieux? Jésus-Christ parle tout le temps du royaume des cieux ou encore du royaume de Dieu. Tout le temps, Jésus en parle. Dans les évangiles, il parle tout le temps du royaume de Dieu. Et je le répète encore, je n'aurai de cesse de le répéter, s'il y a bien un sujet qui est incompris des enfants de Dieu, des chrétiens en général, c'est bien le sujet du royaume de Dieu. Quand on parle de mariage, alors là, les gens connaissent les versets par cœur. Quand on parle de l'argent ou de la dîme, ça ouvre des débats houleux. Mais quand on parle du royaume de Dieu, tout le monde est silencieux. Et quand il y en a un qui ose parler, il dit, non, mais le royaume de Dieu, c'est le paradis. Quand nous allons mourir, nous allons tous aller au royaume de Dieu. Faux! Ce n'est pas le paradis. Est-ce qu'on peut dire avec moi, je suis citoyen du royaume des cieux? C'est ce que tu es. Et je n'ai pas envie de revenir là-dessus, mais un citoyen, c'est, il appartient à une nation, il appartient à un pays. Aujourd'hui, naturellement parlant, tu es Gabonais. Tu appartiens à la nation gabonaise. Et parce que tu appartiens à la nation gabonaise, parce que tu es Gabonais, en tant que citoyen, tu as des droits, tu as des devoirs, tu as des obligations et tu as aussi ce qu'on appelle une culture. La culture gabonaise. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? La culture est quelque chose de très important parce que la culture est quelque chose qui va déterminer ton mode de pensée, ton mode de vie, ton comportement, tes habitudes, tes relations, tout cela. Et c'est très important de comprendre la culture dans laquelle on vit. Et quand vous prenez le Nouveau Testament, quand on lit les épîtres de Paul, on découvre, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, que Paul ne parle que de culture. Faites ceci, ne faites pas cela, distinguez-vous des gens du dehors, etc. etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme eux. Quand vous regardez les Chinois qui vivent ici, au Gabon, ils sont au Gabon, mais ils vivent comme s'ils étaient en Chine. Lorsque nous, on fête le nouvel an, le 1er janvier, eux, ils fêtent ça plusieurs mois après. Parce qu'ils restent attachés à leur pays, à leur culture. Amen. La semaine dernière, j'ai rapidement évoqué pas mal de choses qui reflètent la culture du monde. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit que la culture du monde, c'est le mode de pensée de Satan. Il y a trois choses qui caractérisent Satan. La première, c'est sa nature. Sa nature, c'est le péché. Depuis que Satan est entré en Adam, lorsqu'Adam a péché, la nature satanique est entrée en l'homme par le péché. Et tout ce qui est sorti de Adam est péché et rempli de la nature satanique. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont rachetés par la rédemption en Jésus-Christ. Et j'ai aussi évoqué deux types de personnes qui vivent aujourd'hui sur terre, les Adam et les Christ, ceux qui sont de la nouvelle création, ceux qui sont sortis de Christ. C'est pour cela que Jean nous interpelle dans le premier chapitre de Jean au verset 12, lorsqu'il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés du Saint-Esprit. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on me suit? Donc, toute la culture du monde est le mode de pensée de Satan. Les guerres, les films cinématographiques, la pornographie, la sensualité, la haine, la violence physique, les vols, la corruption, la convoitise, la gourmandise, l'envie, la violence envers son prochain, etc., la méchanceté, la cupidité, toutes ces choses-là. Il suffit juste d'allumer la télévision pour se rendre compte que le monde est infesté de la culture, de la nature de Satan. Amen. La nature pécheresse, c'est la nature de Satan, le péché. Ensuite, il y a ce que j'appelle la vie de Satan, que l'on appelle la mort. Tout ce que Satan touche est destiné à la mort, parce qu'il communique une vie qu'on appelle la mort. C'est pour cela que tout ce qui conduit ton être charnel, psychique, ton âme ou encore ton esprit à la mort vient de Satan. C'est pour cela qu'il n'y a aucun honneur à glorifier la maladie. Parce que toute maladie qui te conduit à la mauvaise santé ou encore à la mort est de Satan. C'est sa vie. Une maladie est une vie. Quand quelqu'un va coucher avec une femme et est infecté du virus du sida, c'est une vie qui est entrée en lui et qui le détruit à petit feu de l'intérieur jusqu'à ce qu'il meure. C'est une vie qui est négative. Ce n'est pas la vie éternelle de Christ qu'on appelle Zoé, qui est la vie qui nous reconnecte à Dieu. Amen. Donc la vie de Satan, c'est la mort. Et la troisième chose qui caractérise Satan, c'est sa manière de penser, sa culture. Et depuis que ce gars-là, cet imposteur-là, ce chômage sans activité-là, qui essaie de se faire voir et jouer l'intéressant, depuis qu'il a envahi le monde, il infeste le monde de sa culture et de sa manière de penser. Et nous, aujourd'hui, nous avons un défi énorme. C'est qu'on est en Christ, on est chrétien, mais on vit en plein dans le monde. Et c'est facile de se laisser influencer par le monde. Amen. Voilà, donc c'est sur ce point-là que je voulais me focaliser. La Bible nous dit dans le premier livre de Jean, au chapitre 2, au verset 15, « N'aimez point le monde, n'aimez point ce cosmos, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, n'aime pas le monde. Hein? N'aime pas le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui ont des comportements de personnes qui aiment le monde. Moi, par exemple, vous ne me verrez jamais assis dans mon salon en train de vaquer à mes occupations, et puis j'ai mis Trace TV, ou bien Trace Africa. Ça me casse les oreilles, et c'est du monde. Ça m'empêche de réfléchir et d'être connecté au Saint-Esprit. Et moi, je rencontre tout le temps des enfants de Dieu qui sont là à fond, ils écoutent la musique du monde. Jay-Z, 50 Cent, c'est tous ces gens-là qui nous embrouillent et qui nous fatiguent. Et rapidement également, j'ai évoqué plusieurs choses qui nous permettent de reconnaître la culture d'un pays. Des choses telles que la langue, par exemple. Tu veux comprendre la culture d'un pays, regarde la langue. C'est en écoutant la langue de quelqu'un que tu vois de quelle culture il vient. Quelqu'un parle anglais, il ne parle pas français, tu sais que lui c'est un anglophone, il a la culture anglophone. Il y a un autre point également qui nous permet aussi de distinguer la culture d'un pays, qu'on appelle les lois. Est-ce qu'on peut dire avec moi les lois? Les lois, c'est très important. C'est toute une étude. On a parlé de la dernière fois des clés du royaume, les lois du royaume. C'est un sujet sur lequel on va encore revenir et revenir et revenir. Il vous suffit de regarder les lois qui sont votées dans un pays pour comprendre dans quelle culture ils sont. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, on vote une loi sur l'homosexualité qui devient autorisée dans le pays, on découvre en fait la culture de ce pays-là. En ce moment, en France, il y a une loi qui a été votée et promulguée que deux hommes ou deux femmes peuvent se marier. Pire encore, ils peuvent adopter. Mon Dieu. Donc, c'est grave en termes de culture. Et en plus, ils veulent ramener ça chez nous. Nom de Jésus, ça n'arrive pas ici. On a également les symboles. Les symboles, ce sont toutes les valeurs auxquelles la nation croit. Dans certains pays, on croit en la paix, on croit en la liberté, au patriotisme, à l'honneur, à l'identité nationale, etc., etc. On a d'autres symboles forts, comme le drapeau, les couleurs d'un drapeau, etc., etc. Toutes ces choses-là nous permettent de comprendre la culture d'un pays. On a également autre chose, la Constitution. La Constitution, je n'y reviendrai pas, c'est un document juridique qui nous permet d'encadrer la vie des citoyens au quotidien. La Constitution est un élément extrêmement important dans un pays. Tout enfant de Dieu doit comprendre et connaître la constitution du royaume des cieux appelée la Bible. On a parlé également des coutumes. Les coutumes, on a dit que ce sont les valeurs partagées d'un peuple. C'est-à-dire, ce sont des valeurs, à force de les appliquer, elles deviennent comme des lois. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais en parler tout à l'heure. Je vais rentrer vraiment dans les détails tout à l'heure. On a un autre point qui est très important qu'on appelle les normes sociales. Les normes. Normes vient du mot normos, du mot hébreu normos qui veut dire normal. Tout ce qui est devenu normal dans la société. C'est-à-dire, vous voyez la nation gabonaise et vous voyez certaines choses qui pourtant ne sont pas bien, mais vous voyez que c'est devenu normal. C'est normal de voler. quand on est ministre. C'est normal. Le gars, il a volé des milliards, il se pavane dans les rues de Libreville, il crâne devant tout le monde, mais tout le monde sait que c'est un voleur, mais pourtant, il est intouchable. C'est devenu normal. Les normes sociales. C'est normal de mentir. Et quand vous voyez les normes qu'a épousé un pays, ça vous donne une idée de la culture du pays. Mais dans le royaume des cieux, les normes sociales sont le contraire des normes du monde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et enfin, on avait atterri sur les fêtes. Et c'est ce sur quoi on a terminé la semaine dernière quand on a parlé de la Pâque. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur la culture. La culture du royaume de Dieu est ce qui influence notre manière de penser. Et ce qui influence notre comportement. Même notre manière de parler est influencée par la culture dans laquelle nous vivons. Notre manière de s'habiller, nos croyances, les religions auxquelles nous croyons, etc. Nos fréquentations, tout est influencé par la culture. Et notre culture, la culture que nous épousons, lorsque nous entrons dans le royaume des cieux, lorsque nous devenons enfants de Dieu, le défi que nous avons à relever est d'épouser une nouvelle culture. Mais le défi, c'est que depuis que nous sommes nés dans le monde, nous avons grandi dans une culture. Nous avons épousé une culture, nous connaissons cette culture et Dieu nous demande maintenant de délaisser cette culture. Et là, ça devient très compliqué. Amen. Mais est-ce qu'on peut dire avec moi, tout est possible avec Dieu? Quand on est dans le monde, on atterrit dans un monde avec une culture qui est déjà en place. On ne décide de rien. On vient et puis on subit. On grandit. Et notre système de pensée est formé par cette culture. Le monde nous apprend aussi pas mal de choses qui ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire le monde nous les imprègne en nous. Tout ce qui vient de la nature satanique, le monde nous les imprègne en nous. La haine, la jalousie, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es jaloux. La convoitise, des choses telles que l'orgueil, la malhonnêteté, le vol, la corruption, j'en ai parlé, la violence. Le fait que quelqu'un te bouscule et puis tu as envie de... Oh, ça va pas ou quoi? Alors que le royaume de Dieu te dit d'être en paix avec les uns, avec les autres. La débauche. La convoitise des femmes ou la convoitise des hommes. Assurez-vous, les femmes aussi convoitent. Hein? La débauche sont des choses qui sont courantes dans le monde. L'impudicité, l'impureté, toutes ces choses ne viennent pas du royaume de Dieu. Et Dieu nous dit que maintenant que tu es en Christ, tu dois délaisser ces choses. Et il se passe quoi? On grandit dans cette culture-là, on est attaché à ces choses-là qui sont devenues normales en nous. Et puis un jour, on rencontre Jésus. On naît de nouveau et on vient dans le royaume. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit dans Colossiens 1:12, parole vivante, elle dit, plein de joie, c'est Paul qui parle, remerciez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Il précise bien chrétiens vivant dans la lumière. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas dans la lumière. Hein? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude, nous recevons le pardon des péchés. Il y a 5 choses à retenir ici. La première chose à retenir ici en tant qu'enfant de Dieu lorsque tu nais de nouveau, c'est que tu as désormais part à l'héritage des saints. Tu as désormais part à l'héritage en Christ. Tu as un héritage. Est-ce qu'on peut dire avec moi, j'ai un héritage en Christ? La deuxième chose, c'est que tu as été délivré du pouvoir des ténèbres. Donc, Satan et toute sa cohorte n'a plus aucun pouvoir sur toi. Mais ça, vraiment, je crois que Dieu m'a vêtu d'un manteau pour dire ça aux gens, que vraiment, Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Quelle que soit l'emprise, l'oppression que Satan peut déverser dans ta vie, tu te lèves, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Si tu marches dans la droiture, si tu marches dans la pureté, si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans l'obéissance au commandement de Dieu, je t'assure, tu es intouchable. La seule entrée, le seul accès qu'il peut avoir dans ta vie, c'est lorsque le péché entre dans ta vie. Lorsque le péché entre dans ta vie, il a accès. Mais tant que le péché n'est pas entré dans ta vie, il ne peut pas te toucher. Vous voulez que je vous donne une image de ce qu'est la vie en Christ par rapport à ce que je parle, ce que je suis en train de vous dire? La vie en Christ, c'est comme un sous-marin. Un sous-marin immergé dans de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Le sous-marin est en profondeur. Et toi, tu es dans le sous-marin. Le sous-marin, c'est Christ. Et depuis le sous-marin, tu regardes toute l'activité qu'il y a dans, au fond de la mer. Tu vois les poissons, tu vois le requin qui bouffe l'autre, tu vois la pieuvre qui avale les petits poissons. C'est exactement ce qui se passe. Toi, en Christ, tu regardes le monde. Tu vois comment les uns et les autres se détruisent. Mais tu ne vas pas là-bas. Si en étant dans le sous-marin, tu commets la bêtise de casser la vitre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te noyer. Le péché, c'est ça. C'est casser la vitre. Quand tu casses la vitre, toute la culture rentre. Tout ce qui est Satan entre dans ta vie. Dernièrement, il y a quelques jours, j'ai reçu quelqu'un chez moi, en début de cette semaine, quelqu'un qui me disait qu'il avait un gros problème avec son épouse. Ils sont au bord de la séparation. C'est grave. D'ailleurs, même là, au moment où je vous parle, il a quitté la maison. Il vient me voir et il me dit, ça ne va vraiment pas avec ma femme, etc. Donc, je commence à lui poser des questions. Je lui dis, allez, déballe. Et monsieur me dit dans la discussion que ça fait un moment qu'il sort avec une autre femme, puis avec une autre femme. Et je lui dis, mais c'est quoi maintenant le problème dans ton couple? Oh, c'est parce que j'ai découvert qu'elle aussi, elle sortait avec un autre homme. J'ai dit, aïe, 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 là, c'est grave votre histoire. Donc, elle te rend l'appareil, en fait. Non, mais tu sais que nous, ça va. Moi, c'est pas grave, mais elle, il y a problème. J'ai dit, non, c'est parce qu'elle sortait avec un gars. Il y a déjà problème quand toi, tu poses l'acte. Donc, elle ne fait que suivre la tête. Si la tête a fait ça, elle aussi, elle a fait ça. Comme c'est toi le chef de la famille, c'est toi le chef de la maison. Comme tu es parti faire ça, mais tout le corps est parti là-bas. Donc, elle a vu, elle a dit, oh, mais c'est ça que le chef fait. Ben, je ne suis que l'exemple du chef. Donc, et là, je lui donne une image. Je lui dis, à cause de la porte que tu as ouverte, tu as un nouveau beau-père qu'on appelle Satan. Ton beau-père a accès à la maison et il est assis dans le salon. Donc, comme il est assis dans le salon, vous êtes là et puis tout d'un coup, il y a un coup de colère, tu lui mets une gifle ou bien... En fait, c'est son atmosphère, tu vois, il crée son ambiance à lui, tu vois ce que je dis, parce qu'il est assis dans la maison. Mais si c'était le Saint-Esprit qui était là, il y aurait la paix et la joie dans la maison. Tu peux, mais comme tu es la tête, le chef de la maison, tu as ouvert la porte et tu as laissé entrer les cousins, les cousines, les démons et tous ces gens-là. Esprit d'impudicité, esprit de séduction, esprit de mari de nuit, esprit de colère, esprit de tout, tout rentre. Mais ils ont accès à la maison, tu les as invités. Amen. On va en reparler le 31. Ensuite, tu as été transféré du royaume éternel de Christ. 4, tu as été racheté de la servitude. Et 5, tes péchés ont été pardonnés. Ça, c'est un état. Et le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. Et le défi que Dieu a maintenant, c'est que depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a commencé à faire une rééducation royale par le Saint-Esprit que j'aime appeler le tuteur royal. Depuis le jour où tu es venu au monde, Dieu a mis à ta disposition le tuteur royal. Il est là, il te tient par la main et il ne fait que t'éduquer et t'entraîner et t'apprendre à penser comme Dieu. Et tout ce qui est du monde, il fait un décrassage spirituel pour enlever tout ça, pour que tu recommences à penser comme Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, après avoir passé des années dans une culture différente qui a façonné ta manière de penser, te voilà maintenant dans un nouveau milieu culturel avec de nouvelles choses à apprendre et plein de vieilles choses à désapprendre. Amen. Plein de vieilles choses à désapprendre. Mais comment se débarrasser de la vieille nature, de la vieille culture? Comment on fait? Oh, je n'arrive pas à me délaisser de ça. Je n'arrive pas à me défaire de ça. Comment je fais? On a souvent entendu ce genre de discours, non? Oh, j'essaie, je fais, je me bats, mais c'est comme il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le contraire. C'est la culture. C'est la nature là, qui est en toi que tu n'as pas encore évincée. Comment laisser les vieilles habitudes? Comment penser comme Dieu? Comment se délaisser du péché? Comment crucifier sa chair? Comment ne plus marcher avec les convoitises de son âme? Comment faire quand on vit avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que moi? Comment faire pour gérer nos relations sentimentales alors qu'on veut acquérir la mentalité de Dieu? Comment ne plus mentir, voler, tuer alors qu'on était habitué à le faire dans le monde? Comment embrasser la culture du royaume de Dieu alors qu'on est encore imprégné de l'ancienne culture du monde. Là, je viens de te donner des thèmes de méditation à la maison. Comment? Comment? Est-ce qu'on peut dire avec moi comment? Donc, la culture demeure un gros problème. Et il faut s'en défaire. Et comment est-ce que je fais pour m'en défaire? À la fin, je donnerai les solutions. Et bien que je sache que ce ne sont pas les seules solutions, mais j'en esquisserai quelques-unes qui pourront nous aider. La culture est la bataille pour la terre, avec le monde des ténèbres. C'est une bataille quotidienne. On est tout le temps en train de lutter contre une culture qui est différente de la nôtre. Tu es là, tu as prié pendant 2 heures le matin, tu es frais, tu es connecté au Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et puis tu t'apprêtes à aller au travail. Et au moment où tu t'apprêtes à aller au travail, tu montes dans le taxi. Quand tu montes dans le taxi, il y a une femme devant toi là qui te perturbe. Elle te perturbe parce que tout simplement l'environnement dans lequel tu es ne t'aide pas à rester connecté. La culture, est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? Satan est quelqu'un qui aime la culture. Satan est quelqu'un qui a compris la puissance et le pouvoir de la culture. C'est pour cela qu'il infeste l'atmosphère et le monde dans lequel nous sommes de sa culture. Particulièrement au travers d'éléments tels que la musique. La musique est un élément très puissant pour véhiculer la culture. Aujourd'hui, on a des ambassadeurs de Satan sur Terre qui sont là pour véhiculer sa culture. Et je n'ai même pas honte de citer leurs noms. Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Kanye West, tous ces gens-là. Et il y en a plein comme ça. Je vous assure, vous les observez sur Internet et vous voyez le message qu'ils véhiculent. Ils sont dangereux, ces gens-là. Quand ma femme et mon ami, ma fille, l'année dernière, dans une école, bon, je tairai le nom quand même par sagesse. On a mis, parce que peut-être il y en a qui ont des enfants là-bas, je ne sais pas. On a mis notre fille dans une école. Si je vous dis que tous les matins, 7h30, quand on l'a déposée, tous les matins, ils font danser les enfants sur Rihanna. Allez tourner les rats, toutes les chansons de Rihanna. Ils sont, et tous les enfants de l'école, ils sont tous là dans la cour en train de danser sur Rihanna. Un jour, je suis allé voir la maîtresse, j'ai dit, mais vous m'arrêtez ça. Moi, j'enlève mon enfant d'ici. Hein. Qu'est-ce qui vous prend là, toujours mettre du Rihanna tous les matins à l'école? Vous êtes en train d'intégrer quelque chose dans l'esprit. Et ma fille est venue à la maison, et puis tu vois, elle est dans la chambre, elle chante du Rihanna, et puis elle danse, elle fait comme ça. J'ai dit, arrête ça. Hé, hey, tu as pris ça où? Mais c'est à l'école qu'on a appris ça? Non. Ils sont en train de gaspiller ma fille. Tout le travail que je fais, ils le détruisent à l'école. Tout le travail que je fais à la maison. Les ambassadeurs culturels du royaume des ténèbres travaillent, ils sont actifs. La musique est un vecteur très puissant. Et il suffit juste de regarder la télévision. Les médias, la télévision, la radio. C'est pour cela que l'Église doit se lever et prendre les médias. L'une des grandes faiblesses aujourd'hui de l'Église, c'est qu'on n'a pas de médias. Quand on veut organiser un événement, on n'a pas de médias. Les petites radios, TV chrétiennes qui existent, là, elles ne sont pas suffisamment influentes. Et vous savez pourquoi beaucoup de TV chrétiennes, beaucoup de pasteurs qui créent des chaînes de télévision ont du mal à avancer? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'Église. Les chrétiens préfèrent aller consommer et communiquer sur des supports païens que de communiquer sur des supports chrétiens. Donc le gars, il galère. Le plus souvent, lorsque un enfant de Dieu, Dieu lui donne une opportunité, un accès, et puis il crée un média, ou bien il arrive au sommet de la société, etc. Le plus souvent, il se sent seul, parce qu'il n'est pas soutenu par l'Église. Parce que l'Église ne pense pas culture du royaume des cieux. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture du royaume? Donc, tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, ou non. Il suffit juste qu'on te regarde pour voir de quelle culture es-tu. Quelle culture as-tu embrassé? Quelle culture as-tu embrassé? Comment se manifeste la culture d'un pays ou encore d'une personne? On regarde quelqu'un, comment on arrive à distinguer de quelle culture elle est? C'est dans la manifestation des pensées d'une personne que tu vois sa culture, soit ce à quoi elle croit et les principes de vie qu'elle a embrassés. Il suffit juste de regarder ça pour savoir à quelle culture la personne appartient. On a les valeurs. Les valeurs, c'est tout ce que nous valorisons, tout ce à quoi nous accordons de la valeur. Et les valeurs reflètent notre culture, notre personnalité, notre caractère. les valeurs, nos croyances, les priorités. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Qu'est-ce que tu mets en priorité dans ta vie? Il suffit juste de voir ce que tu mets en priorité dans ta vie, ce sur quoi tu mets une considération très particulière pour te rendre compte de la culture à laquelle tu appartiens. Les priorités. Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Est-ce qu'on peut dire avec moi « premièrement » ? Chaque mot que Dieu utilise dans la parole est important. Chaque mot. Et chaque mot est pesé. Dieu, c'est un poids lourd. Donc, chaque mot est lourd. Il ne dit pas chercher le royaume et la justice de Dieu. Il dit chercher premièrement. Avant autre chose, chercher premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les priorités. Un autre point également, les célébrations. Ce qui te fait jubiler. Ce que tu fêtes. Ce qui te fait danser. Ce qui te fait rire. Ce qui te fait sourire. Te donne un aperçu de la culture de la personne. La moralité. Qu'est-ce que tu tolères? Qu'est-ce que les gens tolèrent dans la nation? Qu'est-ce qu'on tolère? Est-ce que on dit c'est pas grave lorsque l'on voit quelqu'un commettre l'adultère ou d'autres formes d'infidélité? Au Gabon, par exemple, on tolère l'adultère chez les hommes mais pas chez les femmes. Tout le monde dit, oh, tu sais, ici, un jour j'étais au bureau, ça me fait rire. J'étais au bureau, j'étais en train de travailler et puis les gars dans la salle, ils avaient une discussion. Moi, je voulais pas écouter la discussion. Et puis, parmi eux, il y a une dame que j'aime beaucoup. Elle est tout le temps en train de lire sa Bible et elle est vraiment chrétienne, fougueuse, tu vois. Elle n'a pas honte de déclarer sa foi devant tout le monde. Et il parlait. Et puis, il y en a un qui sort, oh, tu sais, ici, tout le monde a un deuxième bureau ici. Hein? Qui n'a pas de deuxième bureau dans Libreville ici? Tout le monde a un. Et puis, moi, je n'ai pas de deuxième bureau. Et puis, elle a fait, mais toi, c'est parce que tu pries. Tu es un enfant de Dieu, tu es un citoyen du royaume de Dieu. C'est pour ça que tu n'as pas de deuxième bureau. Mais tous, là, ils sont tous gaspillés. Ils ont tous des deuxièmes bureaux ici. Et je leur dis, oui, vous et moi, on n'est vraiment pas pareil. Qu'est-ce que tu tolères? Quelle est ton éthique? L'honnêteté, est-ce qu'elle est mise en valeur dans ta vie? La corruption, est-ce que c'est quelque chose de commun chez toi? Luc 6, 31 nous dit, pour parler de culture, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. D'un point de vue moral, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Et ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, comme le monsieur que j'ai reçu à la maison, ne le fais pas à l'autre. Tu ne peux pas te mettre en colère dans la maison, condamner ton épouse parce qu'elle est partie voir quelqu'un d'autre, alors que toi le premier, tu as fait le désordre. Et puis tu dis, non, mais moi c'est normal. Non, c'est pas normal. Je lui ai dit, c'est pas normal. Les relations que l'on a. Avec qui avons-nous des relations? Avec qui marches-tu? Les gens que tu fréquentes donnent un aperçu de quel genre de personne tu es. Il y a des gens avec qui, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher. Tu es un enfant de Dieu, tu marches avec quelqu'un, voire tu fréquentes quelqu'un, et puis tu projettes d'avoir des projets avec cette personne, mais tu te rends compte que cette personne n'épouse pas la culture du royaume. Cette personne veut rester dans le monde. Ah, mais pasteur, je suis attaché à cette personne. Tu dois laisser. Parce que si tu t'amuses à te mettre avec cette personne, il y aura un choc de culture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura un choc de culture demain. Toi, quand tu voudras appeler l'enfant Paul et qu'elle te dise, non, moi je vais l'appeler Mahomet, il y aura problème. Il y aura un problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, les relations. Ou encore, les normes sociales, j'en ai parlé et je passe. Tiens, les vêtements que nous portons, les vêtements que tu portes donnent une idée de quel genre de personne es-tu. Vous n'avez jamais vu des gens dans l'église qui sont toujours habillés de manière très particulière à attirer les regards? Ou bien à choquer? Et la personne, quand tu essaies de lui faire comprendre que c'est pas bien, change un peu ton accoutrement. C'est trop léger. Elle dit, mais en quoi c'est anormal? Je ne vois pas ce qu'il y a de là, non. C'est-à-dire, tu perds ton temps à essayer de lui expliquer. Elle n'a pas la même culture que toi. Toi, il y a des choses que tu vois. Elle ne les voit pas parce qu'elle est dans le monde. Dans le monde. Toi, dans l'église, c'est normal de mettre la jupe en dessous du genou. Elle, dans le monde, c'est normal de mettre la jupe au-dessus du genou. Donc, si tu t'assois à discuter avec la personne pour lui faire comprendre qu'il faut changer de comportement, tu perds ton temps. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, dans le royaume, la manière dont tu te vêtis est très importante, l'accoutrement. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Un autre point important qui permet de comprendre la culture dans laquelle tu es ou dans laquelle quelqu'un d'autre est, le langage. Est-ce qu'on peut dire avec moi le langage? Notre manière de parler en dit long sur notre culture. Dans le monde, les grossièretés sont normales, voire obligatoires. La manière de parler dans le monde, chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, il est toujours en train de dire P-U-T-A-I-N, P-U-T-A-I-N. P-U-T-A-I-N, oh P-U-T-A-I-N. Mais toi, dans ta culture, ça doit te choquer. M-E-R-D-E. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Et dans le royaume, nous avons une manière de parler qui est différente. Éphésiens 4, 29, tiens. C'est écrit dans la Bible. Hein. Excusez-moi, ce n'est pas moi qui invente, c'est écrit dans la Bible. Hein? C'est écrit dans la Bible. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et j'aime bien la version parole vivante parce qu'elle dit « Refusez de participer aux calomnies ou encore aux critiques. » Tu vois, quand tu es toujours « Tu as vu la personne là, elle est comme ça. » De laisser aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? Cherchez les mots qui aident et encouragent que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres, pas à leur régression. Dites à propos, elles pourront être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Est-ce qu'on peut dire avec moi la culture? C'est très important. Et Paul insiste encore, il nous dit, allez, chapitre 5 au verset 3, il dit, quant à l'immoralité, parce qu'il connaît le sujet de l'immoralité, il sait que c'est un sujet qui passionne chez les gens. Quant à l'immoralité sous toutes ses formes, l'escroquerie et aux différents vices, qu'il n'en soit même pas question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour des gens qui appartiennent à Dieu. Hein? Le jour où tu es là dans l'église, ou bien tu vois des frères et puis ils commencent à avoir des discussions bizarres, tu fais, ce ne sont pas des sujets de conversation pour des gens qui appartiennent à Dieu, monsieur. Voyons, tenez-vous enfin. C'est quoi ces façons de parler là? Oui, ce ne sont pas des sujets de conversation. Les jeunes particulièrement, ils sont là. Tu as vu la petite? Dans le royaume de Dieu, on ne dit pas la petite. Hein? Ce ne sont pas des mots que l'on utilise dans le royaume de Dieu. Ce sont des vocabulaires qui n'existent pas chez nous. Une fois, j'étais en train de faire une émission. J'étais en train de faire mon émission radio quotidienne. Et puis, il y a un auditeur qui appelle et puis il pose une question. Je réponds. Et puis il fait, ah, monsieur Ondias, non, vraiment, j'ai trop kiffé. Quoi. Allez, oui, hein. Et puis je suis resté calme, j'ai rien dit. Et puis le journaliste fait, monsieur Ondias, vous avez compris ce qu'il a dit? Je dis, non, j'ai pas compris. Oh, vous aussi, vous comprenez pas les oui. Je dis, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, les oui. Pour moi, c'est comme si tu as parlé un autre langage. Ça me parle pas. Je suis pas de cette culture. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, on avance, on va finir. Donc, quand tu es né dans le royaume des cieux, quand tu es né de nouveau, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de toujours chercher à grandir dans la culture de son royaume. Toujours chercher à changer ta manière de penser. C'est facile de prendre une mauvaise habitude et Dieu sait que c'est difficile de s'en défaire. C'est pour ça que le travail, il est long. C'est un processus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as donné ta vie à Jésus que du jour au lendemain, tu vas arrêter. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais toujours l'habitude de dire P-U-T-A-I-N. J'ai eu du mal à enlever ce mot de ma bouche. Et c'était là que je m'étais rendu compte que le mot était imprégné en moi, en fait. Sans m'en rendre compte, je le prononçais. Sans m'en rendre compte. Quand je suis au téléphone avec mes frères ou bien des amis qui ne sont pas chrétiens, enfin des amis, des gens que je connais, qui ne sont pas chrétiens, quand ils parlent, ils sont tout le temps en train de dire P-U-T-A-I-N. Je dis, gars, arrête de parler comme ça. Gars, je suis quand même pasteur, arrête tout. Tu parles dans mes oreilles comme ça. Ça me dérange. Je vais raccrocher si tu continues. Oh, oui, ok, excuse-moi. Oui. Parce que mes oreilles, ce n'est pas garbage, right? Ce n'est pas une poubelle. Amen. Donc, voici la clé. Si tu continues de faire ce que tu avais l'habitude de faire, tu continueras d'avoir les mêmes résultats. Si tu veux avoir des résultats différents, commence à faire des choses différentes. Est-ce qu'on peut dire amen? On va atterrir. Avant d'atterrir, je voudrais nous interpeller sur ce passage. C'est un passage très important que Paul nous donne. Éphésiens 4 au verset 17. On lit rapidement. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Ah, cette parole est dure. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Là, il donne la représentation, la définition de ce qu'est un païen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, est-ce qu'on peut dire avec moi vous? Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut dire avec moi, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sous votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ou encore volait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La première chose qui caractérise la nature de Satan, imprégnée chez un païen, c'est le mensonge. Parce qu'il est le père du mensonge. C'est le menteur par excellence. C'est pour cela que Paul parle ici à des gens qui viennent de naître de nouveau dans l'église. Et Paul, la première recommandation qu'il leur donne, c'est renoncer au mensonge. Et il précise juste avant, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ, ça s'apprend. Marcher avec le Seigneur, ça s'apprend. C'est un apprentissage de tous les jours. Et il dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, vous avez. Pourquoi vous avez? Parce que tout simplement, ils avaient déjà reçu tout un tas d'enseignements concernant la vie en Christ. Et il leur dit, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Donc, changez, parce que vous avez déjà entendu la vérité. Changez. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est pourquoi, un, renoncez au mensonge. La première chose qui caractérise Satan, que l'on retrouve chez un païen, le mensonge. Si tu as l'habitude de mentir, arrête de mentir. Parce que chaque fois que tu mens, tu es en train d'adopter la nature de Satan. Deux, il dit, si vous vous mettez en colère, la deuxième chose qui caractérise sa nature, c'est la colère. Toutes les fois où tu te mets en colère, toutes les fois où tu laisses accès à la, tu donnes place à la colère, tu donnes accès à Satan. C'est pour ça qu'il termine ici en disant que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Parce que toutes les fois où tu te mets en colère, tu es en train d'ouvrir une porte. Il faut très vite la refermer. Et il dit troisièmement que celui qui dérobe ne dérobe plus. La troisième chose qui caractérise ce gars, c'est le vol. C'est le vol. Chaque fois que tu vois quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui a la nature de l'autre, la culture de l'autre. Mais nous, dans le royaume, il dit, on travaille. Quand on veut gagner notre pain, on ne vole pas, on travaille. Demain, Dieu t'accorde la grâce d'être promu. Tu arrives à un poste important dans la société et tu vois beaucoup d'argent passer devant toi. Tu es seul dans le bureau. Qu'est-ce que tu fais? Un jour, j'étais au travail et puis j'avais une discussion dans ce sens avec des collègues de travail. Enfin, avec les gens que je manage, et puis me pose une question, ils me disent, Monsieur Ondias, on se connaît. Je dis, on se connaît pas. On se connaît, Monsieur Ondias. Vous voulez dire quoi? Que si vous êtes seul dans tel endroit, et puis on met 3 milliards sur la table, vous êtes seul. personne ne verra, personne ne sera au courant, ni vu ni connu. Vous n'allez pas prendre. J'ai dit non, je ne prends pas. Il fait, oh, arrêtez-moi vos histoires.
3 milliards.
J'ai dit non, je ne prends pas. Parce que j'ai une intégrité. Je suis attaché au Seigneur. Il me dit, oh, arrêtez. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont prendre. Hein. C'est leur problème. Moi, je ne prends pas. Et enfin, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que la quatrième chose qui caractérise le païen qui a la nature pécheresse, c'est le langage grossier. Et ça aussi, c'est un travail qui doit être fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On va finir. Je vais donner pour finir 7 clés fondamentales pour acquérir la culture du royaume. 7 choses qui vont nous aider à acquérir la culture. La première chose, la première clé qui nous permet d'acquérir la culture au quotidien, c'est étudie, médite et applique la parole de Dieu dans ta vie tous les jours. C'est la clé, la première clé fondamentale, le chef fondamental. Hébreux 4:12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Plus tu es imprégné de la parole, et plus elle va juger tes pensées et les sentiments de ton cœur. Et si dans ton cœur il y a des sentiments impurs, des pensées impures, la parole va juger. Et le Saint-Esprit en toi va les révéler et va te dire, change ça. Est-ce qu'on me suit? Étudie, médite et applique la parole tous les jours. L'un des problèmes majeurs que tu rencontres chez les enfants de Dieu qui ont des difficultés à grandir dans le Seigneur, c'est parce qu'ils n'appliquent pas la parole dans leur vie. Ils n'ont pas de moment de communion dans la méditation de la parole avec Dieu. Ils ne connaissent pas méditer, ils ne savent pas méditer, ils ne le font pas. Pourtant, tout part de là. Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains, tu n'as pas besoin d'aller séminaire après séminaire pour changer, tu as juste à prendre des temps de communion personnelle chaque matin avec Dieu, lire la Bible, tu prends les versets qui te parlent, tu les comprends, tu les écris et tu les mets en pratique dans ta vie. Tu es en train d'étudier ce qu'on vient de dire, ne vous mettez pas en colère, tu sors de la maison avec ça et là, au moment où tu sors, quelqu'un te fait une violente queue de poisson en voiture, bouh! Le Saint-Esprit dit, ne te mets pas en colère. Oh, comme je disais hier à la veille de prière, bon, je te frappe et après je demande pardon à Dieu. Non. Deuxième clé qu'il nous donne, prie sans cesse pour demander l'aide et la sagesse de Dieu. Ça, c'est très important. Jacques 1, verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui la donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est important ce verset, pourquoi? Parce que il y a des situations dans la vie où tu vas devoir demander la sagesse de Dieu. Par exemple, imagine que sur ton lieu de travail, tu es obligé de travailler avec quelqu'un, non seulement qui ne t'aime pas, mais en plus, tu sais que derrière, il te veut du mal. Mais Dieu te dit, tu vas devoir gérer avec cette personne. Tu sais que tu sais que tu sais. Ma femme rigole parce qu'elle sait que je vis ça en ce moment. Tu sais que la personne te tourne en bourrique et elle te veut du mal. Mais tu dois travailler avec la personne et tu dois voir sa tête tous les matins. Et Dieu te dit, tu ne dois pas te mettre en colère et tu dois garder ton calme. Et la veille, on t'a encore dit qu'elle a fait telle chose à ton sujet ou elle a dit telle chose à ton sujet. Tu as juste envie de venir le matin, mais tu te prends pour qui? Tu t'es cru où là? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je vais te faire ça dire si tu continues. Tu t'es cru où là? Non. Dieu dit, garde ton calme. Et tu dois faire preuve de sagesse. Mais cette sagesse-là, elle vient de Dieu. Il faut la demander. Il faut dire, oh Dieu, donne-moi la sagesse, pardon. Les paroles qu'il faut pour parler à ces gens-là. Amen. Troisième clé, mets Dieu en premier dans tout. Matthieu 22, verset 37 nous dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Aujourd'hui, il y a des situations qui sont difficiles à résoudre et tu te demandes comment faire pour les résoudre parce que tu sais que malgré toute la bonne volonté d'embrasser la culture du royaume, ça va être difficile d'appliquer les principes de Dieu. Tu vas devoir dire, Seigneur, là je prends une décision radicale, je te mets en premier. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les oppositions et les difficultés que je vais rencontrer, aujourd'hui, je te mets en premier dans ma vie. Toutes les fois où tu renonces, où tu lâches prise, Dieu n'est pas en premier. Parce que Dieu dit que si je suis en premier, je suis un Dieu jaloux et je veux toujours la première place. Quatrième clé. Ah, ça j'aime. Établis un environnement propice à la croissance de ta foi et de ta communion avec le Saint-Esprit. L'environnement, j'en ai parlé longuement au séminaire sur le potentiel. Colossiens 3 au verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'un des bons moyens d'embrasser la culture du royaume, c'est de saturer l'environnement de ta vie par la parole, par les chants, par la louange, par l'adoration, tes relations pareilles, tout ce qui t'entoure est saturé de la présence de Dieu. Et quand tu te satures comme ça de la présence de Dieu, je t'assure, le diable a du mal à rentrer dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est tout le temps en train de garder ton esprit en éveil, connecté. Et l'un des gros défauts qu'ont beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que l'atmosphère dans laquelle ils évoluent souvent est corrompue. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu écoutes à la radio? Est-ce que tu as des relations positives autour de toi? Les gens que tu fréquentes? Qu'est-ce que tu regardes à la télévision le soir quand tu rentres? C'est facile de mettre la télévision et puis de tomber sur une émission sur la une et puis on voit des filles danser dans tous les sens, etc. Et puis tu dis, ah Seigneur, ta culture, vraiment. Mais tu n'éteins pas la télé. Il faut éteindre la télé. Ou bien tu te satures de ça. Tu regardes, tu es là, tu dis, bon, ok, je vais zapper ça. Et puis tu arrives sur une chaîne film d'horreur et puis tu regardes, oh, film d'horreur, on tue quelqu'un. Esprit criminel sur TF1. Boum, tu regardes Esprit criminel. J'ai dit ça parce que je sais qu'il y en a qui vont regarder ces films-là. Esprit criminel. Et puis après, quand tu vas dans le drap le soir pour dormir, la nuit, tu fais des cauchemars. Oh, j'ai rêvé d'un truc bizarre. C'est dit parce que tu as regardé Esprit criminel avant de dormir. Ce n'était pas un songe que Dieu te montrait ou Satan ne t'a pas opprimé. C'est juste parce que tu as laissé entrer dans ton subconscient de mauvaises pensées. Amen. L'environnement. 5. Sois ferme. Est-ce qu'on peut dire avec moi, sois ferme? 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobre. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Galates 5 au verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi il dit ici de nouveau? Parce que avant vous y étiez. Soyez ferme. Et l'un des gros problèmes que beaucoup rencontrent, c'est qu'ils ne sont pas fermes. Tu marches avec quelqu'un, tu sais que tu ne dois pas marcher avec cette personne. Mais pourtant, cette personne arrive à te séduire et à t'entraîner avec elle. Parce que tu n'es pas suffisamment ferme avec toi-même et tes convictions. Avant-dernier point, fais confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Même si la situation est difficile, même si la situation est très délicate, tu n'as pas envie de blesser quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas envie de blesser un de tes proches. Tu sais que tu as envie de suivre le Seigneur, mais tu sais que lui, il ne veut pas suivre le Seigneur, mais tu sais que tu dois pourtant faire le choix de suivre Dieu, fais-lui confiance, parce que le temps vient et il est déjà venu où Dieu va incliner le cœur de cette personne en ta faveur, au nom de Jésus. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Dieu travaille. Et même si tu ne le vois pas toujours de tes yeux, sache que Dieu travaille derrière. Psaume 23, verset 4, David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Oui, il agira au nom de Jésus. Et enfin, dernier point, proclame la parole et prophétise sur ta propre vie. Ça, c'est très important. Et très peu d'entre nous on le fait. C'est une chose de rendre des actions de grâce. C'est une chose de pousser des supplications à Dieu. C'est une chose de pleurer devant le Seigneur quand on n'y arrive pas. Mais c'en est une autre où on se lève et puis on proclame des paroles positives sur sa vie. Oui, je proclame. Psaume 81, verset 10 dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Psaume 17, verset 5 dit, « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ce que tu penses, ce que tu veux au plus profond de ton cœur, proclame-le de ta bouche. » La personne avec qui tu es, tu veux qu'elle change? Tu la vois changer, mais tu vois mais le résultat que tu as aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Tu proclames des paroles sur cette personne. Oui, tu vois la personne, elle te répond, « Ton église là, je n'irai jamais là-bas. » Tu lui réponds, « Tu vas venir à l'église toi demain. » Et puis en plus, tu vas servir le Seigneur. Je te le dis ça au nom de Jésus. Ah, laisse-moi, je te dis ça. Et je... oui, et puis la personne dit, « Tu es devenu fan. Hein? » Oui, je le dis, toi tu vas servir le Seigneur. Oui, tu vas servir le Seigneur. Nom de Jésus. Ça me passe par les trucs parce qu'en fait, c'est un auteur dans un livre qui racontait ça en fait. Il est pasteur aujourd'hui et quand il était petit, il ne voulait pas donner sa vie à Jésus. Et sa grand-mère qui est décédée aujourd'hui lui disait ça tout le temps. Un jour, tu serviras Dieu, toi. Et puis, il lui disait jamais de la vie. Elle dit, si, tu vas servir Dieu un jour. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Psaume 37 au verset 30. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Amen. Je voulais vraiment nous laisser avec ça. La culture du royaume. On va insister dessus. On va rester dessus parce que c'est trop important. Et aujourd'hui, la plupart des difficultés que l'on rencontre viennent de là. Elles viennent de là. Parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas épousé le mode de pensée de Dieu. Et c'est toute une étude, c'est toute une marche quotidienne que l'on a avec Dieu. Tous les jours, on doit chercher tout le temps à comprendre comment il pense, comment il réfléchit, la culture. Est-ce qu'on peut incliner la tête, s'il vous plaît? Je voudrais que tu pries, que tu demandes à Dieu de t'aider dans les domaines de ta vie où tu n'y arrives pas, dans les domaines de ta vie où tu n'arrives pas à te défaire de certaines choses, dans les domaines de ta vie où tu es avec quelqu'un et c'est difficile de lui faire comprendre le mode de pensée de Dieu parce que tout simplement toi tu as donné ta vie à Jésus mais lui pas. Demande à Dieu son aide, demande à Dieu son aide mais proclame aussi des paroles positives sur ta vie. Dis-lui simplement Seigneur merci. Merci pour ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as commencé dans ma vie. Merci pour la culture du royaume des cieux que tu ne cesses d'imprégner en moi. Merci pour ta parole. Parce qu'au travers de ta parole, aujourd'hui, je comprends encore de nouvelles choses. Au travers de ta parole, aujourd'hui, Seigneur, mes yeux s'ouvrent. Parce que Paul dit dans la parole que je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous compreniez l'espérance qui est attachée à votre appel. Voilà pourquoi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce pour l'espérance que tu as déposée dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour tout ce que tu es. Et merci pour l'œuvre du Saint-Esprit en moi. Car depuis le jour où je suis né de nouveau, le tuteur royal, le Saint-Esprit, sa majesté, Dieu le Saint-Esprit, a commencé dans ma vie un travail nouveau. Afin que je me dépouille de la vieille nature, afin que je renouvelle mon intelligence et que je revêts l'homme nouveau. Aujourd'hui, je suis en Christ. Car tu dis dans ta parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je te rends grâce, Père, parce qu'aujourd'hui je suis une nouvelle création. Aujourd'hui je suis en Christ et aujourd'hui la culture du royaume des cieux est en moi. Aide-moi, Seigneur, à embrasser ta culture. Aide-moi à la mettre en pratique et aide-moi à abandonner la culture du monde, à me séparer de ceux qui ne te glorifient pas, à me séparer de ceux qui ne t'honorent pas, Seigneur. Et accorde-moi la sagesse. Tu dis dans ta parole que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je te demande la sagesse afin d'agir pleinement, Seigneur, selon, oh Dieu, selon ce que tu as pour moi, selon ma destinée, selon le plan, Seigneur, que tu as pour ma vie. Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu es. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ton peuple. Je te bénis pour ton église. Tu vois, Seigneur, tout le mal et tous les défauts qu'il y a dans ton église. Mais Seigneur, je te rends grâce pour la maison du bâtisseur. Je te rends grâce pour ton peuple. Seigneur, parce que tu es en train de lever une nouvelle armée de champions et de championnes. Seigneur, de serviteurs de l'Éternel qui vont véhiculer, des ambassadeurs culturels de ton royaume qui vont véhiculer, Seigneur, ton mode de pensée, ta nature, Seigneur, et ton caractère, Seigneur, dans leur environnement. Je te bénis et je te loue, Père, de ce que tu fais des choses extraordinaires au travers de nous, Père. Alors à toi soit la gloire, à toi soit la louange et à toi soit l'adoration pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen et acclame le Seigneur. Oh Seigneur, merci. À toi la gloire. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.